Bienvenue sur Coup d'œil, l'émission qui ouvre l'horizon.
En quelques minutes, partons ensemble à la redécouverte de notre territoire. Une série radiophonique proposée par Martine
et Emmanuel. Pour débuter notre série Coup d'œil, nous allons nous poser la question « Pourquoi l'Orient ?» Comment a-t-elle été créée ? Est-ce que 1666 est réellement l'acte de naissance d'une ville ? Le rôle de la Compagnie des Indes et de la Marine est primordial. Mais pour cette première émission, nous n'allons pas raconter l'histoire des différentes compagnies ou de l'arsenal, une autre fois peut-être. L'agrégé d'histoire Claude Nière parle de l'Orient comme d'une ville par surprise. Le professeur Gérard Le Bouédec va dans ce sens puisqu'il dit que le choix de la Compagnie des Indes pour le site de la rade de l'Orient est un choix de quatrième position, après avoir éliminé Le Havre, trop proche des côtes anglaises, Paimbœuf et Bayonne. Dans la vision commerciale de Colbert, la France doit s'imposer face aux Hollandais et aux Anglais tout en développant une marine de guerre spécialisée. D'où arsenaux, ports militaires en eau profonde, équipage.
On cherche donc un site approprié.
Oui, pendant 2 ans, le littoral est inspecté afin de trouver le lieu idéal. En fait, la compagnie ne cherche qu'une assise territoriale, un simple chantier de construction navale. En période de conflit, le site offre un mouillage d'abris protégé par Belle-Île, Ouate, Édic, Égroit et bien sûr la citadelle de Port-Louis. De plus, la rade est ouverte sur les routes atlantiques.
Quels sont les besoins ?
Pour la construction et le radoub, la compagnie a besoin de bois de construction, de toiles de chanvre pour les voiles et de produits métalliques, encre, fer, clous. L'avitaillement, c'est-à-dire les vivres et la cargaison, nécessite aussi l'apport de marchandises. Tout cela doit être pris en compte et être facilement livrable sur le site choisi. Les conditions étant réunies, en 1666, Denis Langlois, directeur de la compagnie, installe donc son chantier.
Et non une ville.
Effectivement, il achète un terrain de 7 hectares sur la rive droite du Scorff, un chantier sur les terres relevant du prince de Rohan au Faouétic. D'autres terrains seront acquis par la suite.
C'est donc le début de l'histoire d'une ville que personne n'a prévu ni souhaité.
Voilà pourquoi la compagnie poursuit son objectif et construit les cales, le magasin général, les forges, la tonnellerie, la corderie, etc. On met en construction plusieurs navires.
Bien entendu, il fallait des hommes pour ce chantier.
L'Orient, qui n'est pas encore l'Orient, a bénéficié d'un bassin démographique en plein essor. Dans un périmètre de 40 km composé de 6 villes et 90 paroisses, elle attire un marié sur 5 et un immigrant sur 3. Le chantier est donc enrichi par des constructions en bois, baraques, casernes où sont logées les familles. Claire Rambaud disait « une peuplade d'ouvriers nécessaire au roi ». La chapelle est le premier édifice en pierre dans un espace organisé avec ateliers, magasins et logements, enveloppant le chantier de l'enclos et qu'on nomme le parc.
On croise donc beaucoup de monde sur le chantier à l'époque.
On croise des salariés de la compagnie de la marine, des ouvriers, journaliers, soldats, marins et tout ce qui va avec, artisans, cabaretiers, commerçants de l'alimentation. En 1699, le directeur de la compagnie, qui devait trouver l'enclos un peu trop chargé, décide de ne garder que le personnel à l'intérieur et hop, de refouler les autres hors des murs.
Et là, que voit-on ?
Une sorte de bidonville composé de cabanes avec murs en torchis qui forment ce qu'on pourrait appeler une ébauche de bourg. Il se développe sur 2 axes en direction de Plumeur et d'Enbon. Cette zone qui ressemble au Far West avec des cabanes qui prennent feu ne peut perdurer. L'habitat rudimentaire construit sur la vase apporte aussi des maladies. La marine veut définir des règles d'urbanisme avec un plan d'alignement des rues, car il faut bien constater qu'une ville inattendue est née.
De l'idée à la réalisation, il y a quand même une marge.
Et il n'est pas facile en effet d'ordonner une ville quand un bâti s'est déjà développé. Plusieurs urbanistes y sont cassés les dents. Roblin propose plusieurs plans, mais c'est un échec. En mai 1724, un arrêt d'alignement pour les édifices à venir règle les conditions de construction. La population grandit avec l'arrivée en masse des marins et des marchands, surtout depuis le transfert de la vente des marchandises coloniales de Nantes à l'Orient. Il faut ordonner la ville, stopper les constructions désordonnées, élever des bâtiments dignes de la population qui s'installe, c'est-à-dire officiers de marine ou de l'armée de terre, négociants. On doit trouver des hôtels, auberges, salles de spectacle.
Comment fait-on ?
Le schéma d'urbanisme s'appuie sur le plan d'Angers du Mans d'avril 1735. On impose l'ardoise et la pierre, on démolit les cabanes pour tracer des rues, on les pave. Pour obliger ceux qui ont déjà bâti à accepter les nouveaux plans, on verse des indemnisations.
La ville conserve encore aujourd'hui le schéma voulu à l'époque ?
Eh oui, avec des rues bien droites qui se coupent à angle droit, tout à fait à l'opposé de villes anciennes comme Vannes ou Auray par exemple. D'autres espaces sont aménagés, tels le cimetière, placé autour de la première église. On ne va plus enterrer ses morts à Pleumeur.
Une autre construction s'élève également.
L'agglomération va se trouver effectivement entourée de murailles, non pas seulement pour empêcher un éventuel assaillant de s'emparer de la ville, mais pour contrôler les entrées, les sorties et lutter contre la contrebande et la fraude. En 1744, la muraille est pourvue de deux tours rondes à chacun des deux angles et percée de deux portes. Celle d'Ennebon et de Pleumeur, que l'on voit d'ailleurs encore sur les cartes postales anciennes. Cette construction crée un intrant murose qui va figer la physionomie de Lorient pendant près de deux siècles.
Cependant, les atouts d'hier deviennent des inconvénients.
Et Lorient se trouve en quelque sorte prise dans un corset qui limite son extension et échanges commerciaux. C'est pourquoi les fortifications sont déclassées en 1902 et en partie démantelées en 1906. Les remparts tombent petit à petit, créant ainsi de nouveaux quartiers, et l'eau courante, le cours de Chazelle, joignant ainsi la ville à quai rentrée au nord. Il ne reste plus que des noms qui subsistent de ces remparts, justement la rue des remparts, la rue du Tour des Portes.
La ville est construite, mais qu'en est-il du nom de Lorient ?
Plusieurs hypothèses ont été avancées, on en retient deux, François Gigoux, un des premiers historiens de Lorient penchait pour trouver dans le nom de la Compagnie des Indes elle-même, Compagnie des Indes orientales ou d'Orient. Henri Buffet, ancien élève de l'école des Chartes, pensait que le nom dérivait du premier vaisseau construit au chantier, le Soleil d'Orient. Très vite, le nom s'est imposé, que l'on écrit avec un L apostrophe.
D'accord pour le nom, mais il faut aussi des édiles pour diriger une ville.
Le pouvoir central étant verrouillé par la compagnie, le premier maire est un de ses écrivains, Étienne Perrault. La communauté se dote d'un hôtel de ville en 1752. En 1763, on décide de donner un nom aux rues et places.
Et après ?
Et après, c'est une autre histoire que nous vous raconterons un jour, peut-être, si vous le souhaitez. Coup d'œil. L'émission qui ouvre l'horizon.
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou, si vous connaissez bien un endroit, à venir nous en faire part.
Vous pouvez nous adresser un mail à coupdeuil@radiobalise.com. À bientôt pour un prochain coup d'œil.